Bonjour Thierry Moratti.
Bonjour Guylaine.
Alors Thierry, nous avons déjà conversé ensemble en 2018.
Oui.
Et à cette époque, vous publiez « Mon corps m'échappe, mais mon âme le rattrape ». Et c'est chez le même éditeur, Sidney Laurent, que vous publiez aujourd'hui « La porte du retour ». Alors 2 ans, c'est le temps nécessaire pour produire une deuxième, un roman, un deuxième livre, une nouvelle production littéraire ?
Mais disons que ça a mis 2 ans, parce que ça a mis 2 ans. Ça aurait pu mettre 5 ans, ça aurait pu mettre 10 ans, ça aurait pu être jamais. Mais non, ça a été 2 ans, je l'avais commencé il y a 30 ans, ce livre. Et ça n'a pas été évident de se remettre dans l'état d'esprit. Parce qu'il y a 30 ans, j'étais beaucoup plus jeune. Personne ne le croit. Mais c'est, d'accord, je n'ai pas changé, je suis d'accord, quand même. Non, mais non, il n'empêche que, oui, ça n'a pas été évident.
Ouais. Alors pourquoi ça n'a pas été évident ? À cause de quoi ? Du sujet, de la structure ?
Ben, disons que, avec le temps, se complexifie. Et c'est vrai que c'était beaucoup moins naturel pour moi de retrouver cet état qui était rempli d'enthousiasme, qui était une espèce d'énergie. Bon, c'est vrai, il faut reconnaître que j'ai un petit peu perdu. Et en fait, ça n'a pas été évident. Mais très vite, je suis re-rentré dedans et j'ai pu faire de ce roman, notamment de ce bar, ce bistrot. Moi qui ne vais jamais au bistrot, j'ai toujours des trucs que j'écris dans les bistrots. Mmh. Et j'ai pu en faire un personnage à part entière. Et là, ça m'a beaucoup intéressé. Voilà.
Alors, rentrer dedans, ça veut dire pour vous, à nouveau réintégrer ce café. Un café qui va supporter l'histoire... Ouais. Principal, parce que ouais. C'est un texte dans lequel il y a beaucoup d'histoires.
Oui.
Il y a beaucoup d'histoires. Et à vous entendre, je me demande si votre intérêt dans cette écriture, c'était la thématique de l'Algérie, peut-être qu'on y reviendra. Est-ce que c'était la structure qui vous intéressait, cette mise en abîme, ou encore ces récits enchâssés, ce rêve, je ne sais pas comment vous allez l'utiliser. Voilà, qu'est-ce qui vous tenait à cœur de reprendre ?
Je ne sais absolument rien, mais il ne faut pas le dire. Bon, par contre, ce que je peux dire, c'est un rêve éveillé.
Oui.
Et donc, j'ai voulu rentrer dans ce rêve éveillé. Et quelquefois, pour moi, la littérature, c'est un rempart contre la réalité. Je déteste la réalité. Il faut dire que dernièrement, nous en avons des leçons avec les virus, le ci et le là, et j'en passe. Et c'est vrai que la réalité, j'ai besoin de ce mur de livres parce que bon, ben, ça me fait du bien. D'autant plus, j'ai été privé de ma bibliothèque pendant 6 mois. Il faut qu'on le sache. Ça a été pas été facile du tout. Et donc bon, rentrer dans un rêve éveillé, j'en avais besoin. Pas au sens psychiatrique du terme, hein, par pitié. Parce que bon, sinon, ce serait.
Alors dans cette histoire,
C'est Palo qui rêve.
C'est Palo qui rêve, ouais. Palo qui est dans ce café, qui arrive dans ce café tenu par Bernard ou Gérard, on y reviendra.
Oui.
Entouré d'animaux, on y reviendra aussi. On va y revenir tout de suite d'ailleurs. Vous identifiez dans le deuxième chapitre, des personnages avec des animaux. Et puis Palo rêve parce que Palo, il a envie de voyager.
Palo, il a envie de fuir la réalité. Il vit dans une cité et il n'a qu'une envie, c'est d'avoir un bon camion et aller connaître le Sahara, connaître le Moyen-Orient, la rêverie, un petit peu ce rêve qu'il y avait au 19e siècle de l'Algérie. Bon, et en fait, on n'est pas au 19e, mais lui, il avait envie de partir de cette cité.
La Courneuve.
De la Courneuve, bien sûr. Et de retrouver... je ne sais quoi. Il est parti en quête de quelque chose. Malgré tout ce qu'il y a dedans, dans ce livre, il y a encore une quête, il y a encore un voyage initiatique qui est présent. Il est présent grâce aux éléments, c'est-à-dire l'élément air, l'élément feu. C'est normal, on est en Algérie, il fait très 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 chaud. Et essayer de passer d'une rue à une autre, c'est pas facile. Ce huis clos qui est le bar, ben, c'est le protagoniste principal. C'est-à-dire que tous les gens qui sont à l'intérieur sont pris par cet élément air, par le sirocco, qu'on retrouve à Paris, en plus, dans ce bar, Et en fait, il y a une espèce de rêve qui prend le dessus sur le réel. Et ça, c'est peut-être mon fantasme.
Qui prend le dessus, mais le réel, on y revient de temps en temps, avec le tenancier du bar. On sait pas s'il s'appelle Bernard, Gérard, enfin, on
ça,
finit
c'est
par
sa
savoir.
Femme. C'est sa femme qui ne sait pas.
qui bon, nous induit en erreur.
Ouais.
Et donc, on y revient régulièrement dans ce bar, hein, comme un retour au premier récit que j'ai envie d'appeler un récit cadre, au fond. C'est comme ça, vous feriez ?
Ben, c'est donc un huis clos. C'est ça, c'est un huis clos. Puis j'ai toujours aimé les huis clos. Ah oui, vraiment. Là, tout est intense dans le huis clos. Le moindre mot, le moindre geste. C'est vrai que c'est j'aime beaucoup cet état de prison. De prison qui ouvre toujours vers la liberté, quand même. Mm-hmm. Bon. Et ça m'a toujours marqué. Toujours la rencontre des contraires. Ouais.
Alors, quand on lit le premier chapitre, on a l'impression, avec le deuxième, qu'on n'est pas du tout dans la même histoire.
C'est vrai.
On commence par un deuil, par des obsèques.
Ben, disons que c'est très difficile de faire son deuil de quelqu'un. Hein, qui plus est, quand c'est sa mère, ça fait à peu près quand même. Et c'est vrai que c'est très difficile. Et ce deuil, cet enfermement, quelque part, permet de casser les murs. Et j'ai toujours besoin, mes premières chansons c'était être libre, c'est-à-dire déchirer les cartes d'identité, et puis même derrière les barreaux d'une prison, être libre. Parce que bon, j'ai l'impression que le fait d'être enfermé génère la liberté. Je suis le seul à le dire, j'ai jamais été en prison, donc je peux rêver. Mais il n'empêche que je crois toujours à la puissance de l'esprit sur le corps. D'ailleurs, mon corps me le rend bien.
Alors, quand vous installez ce paysage du café, ce lieu-là, vous identifiez les personnages sous forme d'animaux, qu'on ne retrouve pas, on trouve un tout petit peu après, mais pas tout le temps. La belette, le museau de fouine. Alors, pourquoi ça, pourquoi vous avez envie de faire ça ? Quand vous nous voyez, vous voyez des animaux ?
Non, absolument pas. Non. Ça, j'avais trouvé ça chez Balzac et j'avais trouvé ça très chouette. Et donc, c'est vrai que les personnes, on peut les retrouver à travers des animaux. Mais disons que lui, c'est son caractère. Le côté fouine, c'est pas le côté physique. Bon, c'est son caractère. C'est un gars. Qui a aussi une vie particulière, qui vient d'Algérie, enfin, puis qui a eu des parents, si j'ose dire, assez particuliers. Bon, il est toujours dans la Courneuve, lui aussi a besoin de rêve. Il trouve le rêve à travers l'herbe, bien entendu. Il allait brouter d'un côté et de l'autre, si j'ose dire. Mais bon, c'est vrai que, on est à la Courneuve, on est toujours dans un endroit qui est lourd, qui est pesant, mais qui génère des personnages comme Lucie, enfin, on saura qu'elle s'appelle Lucie, la chieuse, au départ, ça, on le sait. Ouais. Et c'est pas un animal, la chieuse, hein, parce que bon, on en trouve beaucoup. Non, je plaisante. Bon, c'est vrai que, il y a ce caractère où la personne elle-même se nie par rapport à son état. Elle a besoin d'être autre. Lui, il a rêvé d'être un homme d'affaires. Bon, et c'est vrai que le fond du café, c'est son bureau. Ça a l'air de rien, mais c'est son bureau. Il reçoit, on a besoin d'un réfrigérateur, d'une voiture, de ce que l'on veut. Lui, il trouve. Voilà.
Et lui, Palo, il est venu chercher un moyen pour partir en Afrique.
Oui.
Voilà, oui. Il veut voyager, il exprime ça à son copain, à son pote, qui lui sort toujours, qui lui trouve toujours des solutions.
Oui.
Et là, dans ce café, il va nous transporter, Palo, en Afrique subsaharienne, et plus précisément, petit à petit, en Algérie.
Oui.
Mais c'est un voyage qui va pas être, qui va avoir quelques rebondissements quand même, bien sûr.
Mais disons que cette attirance vers l'Algérie, je n'y peux rien, puisque je suis né là-bas. Et c'est vrai que c'est curieux avec le temps, avec l'âge. Bon, il y a une espèce pour ça, bon, la porte du retour, mais c'est une façon de dire, parce que dans le fait réel, c'est impensable, parce que d'abord, je suis pas physiquement apte à aller faire ce voyage, quoi que sur un fauteuil, on peut tout faire, mais quand même. Bon,
on peut tout faire.
Oui, le Sahara aussi, oui, ça, mais ça, c'est autre chose. Mais disons que le fait de retrouver à travers des photos, des images, bon, de retrouver une vie. Et ça, ça m'a surpris. Parce que j'étais vraiment. Donc ce rêve éveillé, quelque part, je l'ai écrit. Bon, moi aussi. Je me suis fait piéger par ce bistrot. Mais réellement.
Et Manu, vous l'avez pris en autostop ?
Alors, moi, je ne l'ai pas pris. Je ne suis pas palo. Hein. Mais non, on veut toujours trouver. Non, pas du tout. Moi, je suis tous.
Ah, c'est vous qui le dites, hein,
moi. Je suis autant Lucie que Palo, que Manu. Que, bon. Et disons que Manu, c'est un gars qui a une cinquantaine, centaine d'années, qui avait fait. On n'est pas dans aujourd'hui, hein, quand même, pas trop aujourd'hui. Parce que là, il aurait près de 90 ans. Mais qui a fait son service militaire en Algérie pendant la guerre, les événements, mais en fait la guerre. Et là, tous ces gens qui ont fait la guerre, curieusement, et c'est dans les bistrots qu'ils se livrent, qu'ils osent dire des choses que bon, chez eux ils peuvent pas dire ou que dans le quotidien on peut pas dire aussi. Mais dans un bistrot tout se dit. Il y a des choses, je me suis retrouvé plusieurs fois dans un bistrot à la Croix-Rouge à Paris, à attendre un ami pour travailler. Et là, il y avait les mêmes conversations de la veille qui reprenaient le lendemain, les mêmes engueulades de la veille qui reprenaient le lendemain. Et puis, il y avait des défis qui venaient, qui étaient des stylistes, enfin, d'autres qui étaient. Bon, et il y a tout un monde qui s'articule dans ce bistrot et qui devient quelque part une maison secondaire parce que. Plusieurs fois, mais aller à la Croix-Rouge, mais c'était naturel. Et je retrouvais tout le monde, et puis c'était très bien. Et on retrouvait les mêmes discussions la veille et le lendemain, les mêmes engueulades. C'est un peu ce que j'ai voulu retrouver aussi à travers. Pour ça qu'il y a tant d'histoires.
Alors, si on suit cette histoire du rêve, donc Palo demande un camion à son pote, et il nous transporte dans ce rêve. Dans ce rêve, il emmène Manu, oui. Qui lui aussi fait des cauchemars. Parce oui. que lui aussi revient en Algérie, fait un retour en Algérie, parce que lui aussi a vécu des choses, des événements tragiques.
Aussi, mais magnifiques aussi. Disons qu'il a vécu la guerre d'Algérie, c'est-à-dire à la fois pour les gens d'Algérie, les pieds noirs, il y a une attirance par rapport à l'Algérie, une attirance par rapport au monde arabe, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, et puis il y a aussi cette fracture, c'est-à-dire cette tragédie. Bon, et en fait, la belle rebelle, c'est Leïla, et Manu, français, c'est la guerre d'Algérie. Il tombe amoureux de cette femme qui était une rebelle, qui transportait des armes, bon, et qui était magnifique. Bon, et c'est vrai que ce vert, les yeux verts, mais pour moi le vert c'est le présent. Donc, et bien c'est aussi la notion de Prétania, c'est de renaissance, de résurrection. Et c'est vrai qu'il y a tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans ce texte.
C'est immense. Alors, je me suis demandé aussi si ces événements du 1er novembre 1954, à cette fameuse Toussaint sanglante, oui. étaient le but de votre écriture. Où est-ce qu'il était placé ailleurs ? Parce que vous avez tout de suite évoqué le café. Et je sais, alors du coup, je ne sais pas quelle était votre intention d'écrivain bon. Quand vous êtes remis à la porte du retour, 30 ans après.
Avant l'écrivain, il y avait en 54 un gosse de 2 ans. Et ce gosse de 2 ans attendait le Père Noël, comme beaucoup de gosses de 2 ans, et il a reçu des bombes. Et c'est vrai que c'était pas pareil, c'était différent. Et cet instant-là m'a énormément marqué. Et musicalement aussi, puisque je n'ai fait que même du jazz rock, mais des musiques douces. Même dans le jazz rock, il y a d'abord la musique, puis qui se fait casser, bien sûr, parce que c'est l'esprit du jazz rock, et qui se reconstruit à la fin. C'est un peu ce que j'ai fait, c'est un peu ma vie. Parce que à 2 ans, c'est terrible, une nuit c'est long, quand il y a des mortiers qui tombent, et j'avais l'impression que la maison bougeait, j'avais. Moi, j'attendais le Père Noël. Il faisait beaucoup de bruit, ce Père Noël, ce jour-là, cette nuit-là. Et c'est vrai que oui, pourquoi je suis revenu à ça? Je sais pas, c'est pas Madame Freud, ça n'existe pas, Madame Lacan non plus. Bon, mais je vais la trouver.
Madame Dolto, non.
Madame Dolto, non, 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 je peux pas faire ça.
Elle s'occupait des enfants, Madame Dolto.
Oui, mais c'est vrai que oui, ce bombardement est toujours revenu. Est toujours revenu. Et dans les moments aussi de stress qu'on a tous, plus ou moins, et contre lesquels on se bagarre, on se bat, qu'on essaie d'éradiquer quand même, il y a toujours ce bruit des bombes qui est là. Ouais. Ouais.
Alors Thierry Moratti, vous avez évoqué votre passé musical. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un extrait et on se retrouve tout de suite après. Sur FM+, avec Thierry Moratti, qui publie aux éditions Sidney Laurent, La Porte du Retour. Alors Thierry Moratti, nous venons d'écouter Le Pays des Oiseaux, une œuvre musicale que vous avez produite bien avant votre roman La Porte du Retour.
Ah ben oui, ça remonte loin. Disons que c'était un disque que j'ai fait par plaisir, réellement, et qui a été pris chez CBS, et qui a été découvert par une personne qui était psychologue dans un, je sais plus ce que c'était, un super un grand magasin parisien, je ne sais plus trop. Et en fait, ce disque est devenu le premier disque de relaxation pour d'autres New Age. J'étais très surpris d'être New Age. Je l'ai appris après dans les Fnac. Et en fait, c'est un disque de calme, de plénitude. Bon, ça a été la série d'une vingtaine de disques qui ont suivi. Mais c'est vrai que, suite à ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait, par rapport aux bombes, par rapport à tout ça, par rapport à ce que je raconte dans le livre, j'avais vraiment ce besoin de plénitude, de pacification. Donc j'ai eu besoin de me pacifier moi-même, je crois, aussi au départ. Et en fait, la musique de relaxation, musique de détente, ça a été ça. Donc ce disque a été le premier qui a été repris au Canada, qui a fait un peu le tour du monde. Voilà.
Alors, dans notre première partie d'émission, nous avons évoqué l'histoire de La Porte du Retour. J'aimerais maintenant vous faire réagir sur des pépites que j'ai repérées dans votre ouvrage. votre plume, finalement, pour avoir, pour entendre votre écriture. Par exemple, donne-moi ton fric, j'ai besoin d'acheter du rêve, j'ai épuisé mes ressources naturelles. Ça vient comme ça, là, ces phrases-là, chez vous, Thierry ?
Hélas, oui. Hélas, oui, parce que là, pour expliquer ce que j'ai voulu dire, mais ça, pour moi, c'est évident. Mais quand on ne peut plus rêver tout seul, et ben, regardez cette société qui s'invente des mondes. La publicité traduit ça. En fait, je crois que la morale, c'est tant qu'il y ait une morale dans notre société, on la trouve à travers la pub. Et c'est assez surprenant. Ah oui, c'est vraiment surprenant. Et le deviens ce que tu es de Nietzsche, on le retrouve partout. Il faut vivre heureux tout de suite, il faut profiter de tout de suite. C'est une nouvelle façon de vivre aujourd'hui. Et si t'as pas les moyens de ça, t'achètes du rêve.
Un autre univers. La peur est un mensonge que le raconte à son cœur d'enfant.
Ben oui. Et ça, c'est. Quand je le prends comme ça avec un grand recul, je dis oui, c'est pas mal, l'idée est bonne. Mais quand on l'a vécu, c'est être réveillé tous les jours à 4h du matin et on ne sait pas pourquoi, et des cauchemars qui reviennent. Bon, et c'est vrai que cette peur finit par. Par être le nounours qu'on a à côté, quoi. Cette peur, elle est toujours là et c'est elle qui permet d'avancer, curieusement. Et qui m'a permis d'avancer, on va dire. Mais c'est vrai que, ouais, c'est une souffrance, c'est une tragédie, en fait, en réalité.
Encore une citation hein, de vous, Thierry Moratti, dans La Porte du Retour. « Écoute derrière le bruit et contemple le silence, la vérité est là, endormie. »
Je reviens à mes bombes, je suis désolé, hein, parce que c'est pas marrant, mais... Quand tout d'un coup, les bombes s'arrêtent, la vie revit, on a l'impression que ça va durer. Je dis bien, on a l'impression. Bon. Et ces instants de calme, de pacification, on les retrouve aussi le lendemain quand il fait beau. Et alors que la veille, on parlait de la mort, on savait pas si on allait passer la nuit. Bon, voilà, la passerelle était quand même assez difficile. Et le lendemain, tout est beau, tout est bien. Le ciel est toujours là, le jardin est toujours là, rien à bout. Et c'est ce côté, peut-être le pays des oiseaux.
Encore une, l'amour sera toujours une transgression. Un peu plus loin, rien n'a autant d'importance que l'amour, nous avions cru le contraire. Et probablement, l'une des dernières phrases de votre livre, est-elle des dieux nourris du même feu céleste ? Comment vous dire ? Ils se reconnurent. Là, c'est Manu et Leïla.
Oui. Bon, ça, c'est rigolo, parce que avant d'écrire le bouquin, j'avais le début, c'est un jour tout bascule. Et j'avais cette fin, ils se reconnurent. Bon, et disons que là, j'avais. Mon livre était cadré. Après, il faut mettre l'intérieur. Mais le livre était cadré, c'était ça. Et c'est vrai que, oui, l'amour est une transgression, c'est évident. Comme disait Nietzsche, la vie, c'est une tragédie. Rendez compte, on est pour mourir. Quoi de plus absurde. Bon, et c'est vrai que malgré tout, quand on traverse, comme d'autres, il n'y a pas que la guerre, hein, il y a aussi des attentats, il y a tout ce qu'il y a eu il n'y a pas très très longtemps aussi à Paris. Bon, et au milieu de tout ça, l'amour, c'est une transgression. Et on oublie tout. Par rapport à l'autre qui est aujourd'hui comme ça, qui peut-être demain sera différent, mais il n'empêche que l'amour à ce moment-là précis, c'est vrai que c'est une transgression. C'est une façon de dire bon appétit, messieurs.
Et surtout, ils se reconnurent.
Ouais. Comment ça, ouais, mais ça, oui, ça c'est...
C'est encore une autre histoire.
Mais non, mais c'est tous les gens qui tombent amoureux l'un de l'autre, dire on s'est retrouvés, on vient de peut-être il y a des siècles, on s'est rencontrés. C'est un peu du Lelouch dans ce qu'il a voulu faire. Mais oui, mais ce qu'il a fait lui aussi. Tout d'un coup, on est accroché à quelque chose de complètement, complètement irrationnel. Et cet irrationnel, on y croit. La preuve plus irrationnelle, c'est ces grands livres. Qui ont généré des guerres, mais qui ont généré aussi tellement d'espoir.
Ces grands livres, vous
qui sont le Coran, qui sont la Bible, qui sont tous ces grands livres-là qui ont dit des choses, enfin, pour certains, enfin, pour la Bible, je peux dire, puisque Je suis chrétien, mais il y a des choses qui sont dites là-dedans, moi, qui me font hurler, mais de rire aussi. Je dis, c'est pas possible de croire à des choses aussi tant irrationnelles. Et pourtant. Alors, c'est là où je trouve que tout ce qui est amour, tout ce qui parle d'amour est une transgression. Parce qu'en fait, la tragédie humaine, elle est là. Quoi qu'on fasse.
Merci Thierry Moratti. Vous venez de publier La Porte du Retour aux éditions Sidney Laurent et je vous en souhaite un beau succès. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.